L'affaire Sophie Le Tan, la mort en Alsace. Narration, Florent Houllier. Le mercredi 23 octobre 2019, plusieurs parties d'un corps démembré sont retrouvées dans une forêt d'une commune du Bas-Rhin, en Alsace. Un crâne, le squelette d'un buste dont le bassin permet de certifier qu'il s'agit d'une femme, ainsi qu'un fémur sont dissimulés tant bien que mal sous les branchages et la terre. L'analyse ADN permet d'identifier une victime. Il s'agit de Sophie Le Tan, une étudiante alsacienne âgée de 20 ans. Elle avait disparu le 7 septembre 2018, à Strasbourg, le jour de son anniversaire. Sophie Le Tan avait un rendez-vous à Schiltigheim avec le propriétaire d'un appartement qu'elle avait l'intention de louer. Ni ses amis ni sa famille n'ont eu de nouvelles depuis. Le premier suspect dans cette affaire est le propriétaire en question. Il s'appelle Jean-Marc Reiser. C'est un Mosellan de 58 ans. L'homme avait l'habitude de donner rendez-vous à des jeunes femmes pour visiter ce même fameux logement. Jean-Marc Reiser est le suspect idéal. En 2001, quelques années auparavant, il avait déjà été condamné à 15 ans de prison pour une série de viols et suspecté de la disparition d'une jeune Strasbourgeoise en 1987. Sophie Le Tan a 20 ans le jour où elle disparaît. Issue d'une famille de réfugiés vietnamiens qui s'est établie en France il y a 25 ans, elle laisse derrière elle un grand frère de 2 ans, son aîné, prénommé Philippe, et une sœur beaucoup plus jeune, Sylvie. Sophie, née en 1998, est décrite par son entourage comme une jeune fille lumineuse. Elle est très appréciée pour sa grande ouverture d'esprit, sa politesse, sa gentillesse et son respect envers les autres. Très proche de sa famille, elle est parfaitement consciente des modestes possibilités financières de celle-ci. Tri Le Tan, le père de Sophie, est le seul à travailler. Depuis 1988, date de son arrivée en France, il est employé dans une usine automobile de la région de Mulhouse. Wong, la mère de Sophie, est une mère au foyer qui s'occupe parfaitement de ses 3 enfants. Elle tient à les éduquer de manière exemplaire pour leur assurer un bel avenir. Sophie Le Tan est une jeune fille reconnaissante. Élève brillante, elle s'occupe des démarches administratives pour ses parents. Elle maîtrise le français, l'allemand, l'anglais et le vietnamien. Cette passion pour les langues l'amène à s'intéresser au métier de l'hôtellerie. Après son baccalauréat, obtenu avec mention, elle entre en première année de licence en sciences de l'économie et de gestion. En septembre 2018, elle s'apprête à entamer sa 2e année à l'université. Pour financer ses études, elle travaille en tant que réceptionniste à l'Hôtel des Princes à Strasbourg. Chose peu courante pour une étudiante, elle est parvenue à décrocher un CDI. Le précieux sésame est obtenu grâce à son implication, sa détermination et sa capacité à prendre des initiatives. La directrice de l'établissement n'a, de plus, aucun problème avec sa ponctualité. De nature généreuse, Sophie avait prévu de dépenser son salaire pour aider à rembourser le crédit de la maison familiale, aider sa sœur dans la quête d'un appartement, pour lui permettre de réaliser ses études dans le centre de Strasbourg. À long terme, elle se voit entrepreneuse dans l'immobilier, pourquoi pas au Vietnam, qui lui paraît une terre pleine de promesses. Nous sommes le vendredi 7 septembre 2018. Sophie Le Tan quitte son poste de réceptionniste de nuit à l'hôtel à 7h du matin. Elle vient de passer une nuit blanche, mais il n'est pas question pour elle de rentrer chez ses parents pour dormir. Dans 2 heures, elle doit se rendre à Schiltigheim, une petite commune située dans l'agglomération de Strasbourg, pour visiter un studio loué sur le Bon Coin. L'annonce dit ceci. Particulier loue F1,5 sur Strasbourg, 35 mètres carrés, chauffage électrique, salle de bain, cuisine séparée, loyer plus charge 350 € TTC, éligible aux aides au logement, 5e étage avec ascenseur. Conviendrait pour étudiants. L'annonce ne comporte pas de photos et l'adresse n'est pas très précise. Cependant, Sophie a besoin d'urgence d'un logement. Sa demande auprès du Crous pour avoir une chambre dans une résidence universitaire a été refusée. Elle contacte directement le propriétaire qui a passé l'annonce. Le rendez-vous est pris avec un certain Pierre. La jeune fille démarre la journée pleine de confiance. Les premiers messages de joyeux anniversaire pour ses 20 ans arrivent sur son téléphone portable. À 8 heures, elle reçoit un message très tendre de son petit ami, rencontré l'été dernier. Sophie lui envoie une réponse, son ultime message. Philippe lui écrit également. Sa petite sœur Sylvie, non, mais ça n'a pas d'importance car Sophie sait qu'elle va la voir dans quelques heures. Après la visite du logement, Sophie Le Tan a prévu de prendre le bus, direction Mulhouse, pour rejoindre sa sœur. Toutes deux iront ensuite au restaurant pour retrouver toute la famille et fêter dignement ses 20 ans. Sophie ne se rendra jamais à Mulhouse. Elle envoie à sa famille la photo d'un paysage sur Snapchat alors qu'elle est en route pour la visite. Puis envoie un second message Snapchat à sa petite sœur, celle d'une cage d'escalier. Cette photo permettra plus tard aux enquêteurs de trouver l'adresse de l'immeuble. Le dernier endroit où se trouvait Sophie avant de disparaître est la rue Perle, à Schiltigheim, où elle devait visiter le studio de Jean-Marc Reiser. Le téléphone de Sophie sonne plusieurs fois, aux alentours de 9h30. Sa mère essaye de la joindre, mais elle ne répond pas. Il est 11h. Sylvie vient de terminer ses cours. Elle s'attend à voir sa sœur Sophie au portail, comme c'était prévu. La jeune fille attend un peu. Plus les minutes avancent, plus elle est inquiète. Sophie n'arrive jamais en retard. Et si c'était le cas, elle aurait pensé à lui envoyer un message. Sylvie appelle, mais sa sœur ne répond pas. Elle prévient Philippe, son grand frère. Ce dernier envoie des messages qui restent sans réponse. Sylvie pense au pire. Elle ouvre l'application GPS Waze pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'accident de bus à signaler entre Strasbourg et Mulhouse. Rien d'anormal a priori. Sylvie finit par se rendre seule au domicile familial, toujours dans l'espoir d'y retrouver sa sœur. Mais sa mère n'a pas non plus de nouvelles. L'angoisse monte toujours d'un cran au fil des tentatives. D'abord, des messages envoyés à tous les amis de Sophie, ainsi que son petit copain qui ne l'a pas vu depuis le 5 septembre, deux jours avant. Puis la famille se décide à appeler la responsable de l'hôtel pour s'assurer qu'il n'y a rien d'anormal et que Sophie a bien terminé son service de nuit, comme prévu. La directrice confirme que Sophie est partie comme d'habitude le matin, après avoir quitté son poste. La famille Le Tan n'a pas d'autre choix que d'attendre. Les amis de Sophie se proposent pour se rendre à l'hôtel des Princes. Ils savent qu'elle doit prendre son poste aux alentours de 20h. L'heure tourne. Sa responsable s'inquiète à son tour. Vers 23h, Sylvie et sa mère se rendent au commissariat de Cernay pour signaler la disparition de Sophie Le Tan. Comme sa mère ne parle pas bien le français, la petite sœur de la disparue se charge de faire la traduction. Les policiers leur expliquent la procédure en vigueur dans le cadre de la disparition d'une personne majeure. Ne voyant aucun élément alarmant pouvant justifier une enquête de police, l'absence de Sophie est considérée comme une simple fugue. Chacun a le droit de ne pas donner de nouvelles à ses proches et disparaître. En l'absence d'éléments inquiétants, la police estime ne pas devoir commencer des investigations. Durant tout le week-end, Philippe et son père parcourent les rues de Strasbourg et de Schiltigheim pour tenter de trouver un indice. Tri Le Tan, le père de Sophie, est particulièrement investi. De jour comme de nuit, il crie le prénom de sa fille dans les rues. Il se rend lui-même au commissariat pour signaler sa disparition. Mais il obtient la même réponse que sa femme. Une procédure sera lancée si Sophie Le Tan ne donne plus de signes de vie dans 48 heures. Autant dire une éternité. Laurent Tran Van Mang, le cousin de la famille qui travaille dans la région en tant qu'informaticien, se joint aux recherches. Pendant ce temps, Sylvie s'active sur les réseaux sociaux. Elle publie des avis de disparition, cherche de l'aide auprès des meilleurs amis de Sophie. L'avis de recherche comporte très peu d'éléments. Une jeune fille de 20 ans, mesurant 1m55, les yeux brun foncé, typée asiatique, vêtements de couleur sombre et moyens de transport inconnus. Dans une ville étudiante fréquentée par une communauté asiatique relativement importante, Sophie pourrait passer presque inaperçue. Le lundi 10 septembre 2018, la police judiciaire de Strasbourg ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration. C'est tout ce qu'il fallait pour obtenir des précieux témoignages qui vont grandement faire avancer l'enquête. Il s'agit de deux jeunes femmes. Elles seront également de bons témoins lors du procès. La première est étudiante en psychologie. Originaire de Nantes, elle quitte sa région natale pour se rendre à Strasbourg. Durant l'été 2018, elle est en quête d'un logement étudiant. En consultant le populaire site d'annonces Le Bon Coin, elle est intriguée par l'une des annonces. Elle ne se distingue pas par son contenu ni par ses photos. Bien au contraire, il n'y en a pas. Et aucune adresse n'est indiquée. En revanche, le prix est particulièrement attractif. Bien en dessous de la moyenne à Strasbourg. Le loueur prétend s'appeler Pierre. Il a laissé son numéro de téléphone. La jeune femme l'appelle à plusieurs reprises, sans succès. Puis, alors que l'étudiante était passée à autre chose, elle reçoit un appel de lui. Au téléphone, elle distingue la voix d'un homme adulte. Elle ne peut pas évaluer son âge. Ce qui ne la rassure pas, c'est ce ton un peu évasif qu'il prend. Pierre lui donne rendez-vous au 43, route de Bischwiller, à Bischheim, une commune située au nord de Strasbourg. L'étudiante décide de ne pas se rendre au rendez-vous. Elle donne un faux prétexte lorsque Pierre la contacte. Le loueur ne se démonte pas, il lui propose un second rendez-vous. Cette fois-ci, l'étudiante en psychologie décide de l'honorer, mais se retrouve devant une porte d'immeuble fermée. C'est au tour de Pierre de lui faire faux bond. Le 13 août 2018, la jeune femme se rend au troisième rendez-vous. Elle est un peu en retard, mais trouve encore une fois porte close. Elle décide d'abandonner l'affaire, non sans exprimer son mécontentement au loueur au détour d'un message. Elle signale également au site Le Bon Coin que cette annonce est fausse. Quelques jours plus tard, elle tombe sur une autre annonce. Cette dernière est presque similaire à la première, même descriptif et aucune photo. En revanche, le nom du loueur est différent, ainsi que le numéro. Elle pense reconnaître la même voix au téléphone. L'homme, vraisemblablement Pierre, lui donne rendez-vous le 22 août au 23 rue des Chasseurs, à Schiltigheim. Encore une autre adresse pour un même faux bien, mais cette fois-ci, dans la même commune où devait se rendre Sophie. L'étudiante nantaise se rend au rendez-vous. Une fois sur place, elle attend, toujours sans réponse. Elle parvient finalement à entrer dans l'immeuble. Au même moment, l'homme répond au téléphone pour lui signaler que l'appartement est au 5e étage, sans vouloir donner de nom. 3 quarts d'heure plus tard, la jeune femme ressort, après que les voisins lui ont appris qu'aucun appartement n'était alloué dans l'immeuble. Folle de rage, elle envoie un message d'insulte au loueur. Ce dernier lui répond avec un nouveau numéro, le 3e en l'espace de 2 semaines. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais comme elle l'explique aux enquêteurs, elle continue à correspondre avec le mystérieux Pierre, simplement pour voir jusqu'où cela pouvait l'amener. Un jeu dangereux qui se terminera à la toute fin août, lorsque Pierre commençait à devenir trop insistant. À plusieurs reprises, il lui avait proposé d'occuper l'appartement sans payer de loyer. D'abord en lui proposant de lui faire gratuitement des séances de psychanalyse, puis en lui demandant de vivre avec lui. Au total, l'homme mystérieux que Sophie Le Tan semblait avoir rencontré le 7 septembre 2018 avait utilisé pas moins de 4 numéros de téléphone.